Amy Elliott Tune. La nuit du retour. J'ai toujours le sperme de Dessie à l'intérieur de moi, de la dernière fois qu'il m'a violée. Donc l'examen médical se passe à merveille. Mes poignets meurtris par les cordelettes, mon vagin abîmé, mes hématomes. Le corps que je leur présente est un cas d'école. Un médecin âgé à l'haleine humide et aux doigts épais pratique l'examen pelvien. Il racle mon sexe et allait en rythme. Tandis que l'inspecteur Rhonda Bunny me tient la main. On dirait l'étreinte de la serre froide d'un oiseau. Pas du tout rassurant. À un moment, quand elle croit que je ne la regarde pas, elle laisse échapper un grand sourire. Elle est absolument ravie que Nick ne soit pas un sale type après tout. Oui. Les femmes d'Amérique poussent collectivement un soupir de soulagement. Des policiers ont été dépêchés au domicile de Dessie, où ils le trouveront nu et exsangue, une expression d'incrédulité totale sur le visage, quelques mèches de mes cheveux entre les doigts, le lit trempé de sang. Le couteau que j'ai utilisé sur lui et sur les liens sera à côté, par terre, là où je l'ai laissé tomber, hébété, quand je suis sortie, pieds nus, de la maison, en n'emportant que ses clés. Les clés de voiture, celles du portail. Quand je suis montée, encore gluante de son sang, dans sa Jaguar de collection, pour rentrer comme un animal de compagnie fidèle, perdu depuis longtemps, directement chez mon mari. J'avais été réduite à l'animalité. Je ne pensais à rien d'autre qu'à revenir à Nick. Le vieux médecin m'annonce la bonne nouvelle. Pas de dégâts irréversibles et pas besoin de curetage. La fausse couche est intervenue trop tôt. Bonnie continue de presser ma main en murmurant « Mon Dieu, tout ce que vous avez dû subir. Est-ce que vous pensez que vous êtes en état de répondre à quelques questions ?» Sans transition, elle passe de la commisération aux choses sérieuses. En général, je trouve, les femmes laides sont soit excessivement serviles, soit affreusement impoli. Vous êtes l'épatante Amy, et vous avez survécu à un kidnapping brutal ayant donné lieu à des viols à répétition. Vous avez tué votre ravisseur et vous avez réussi à rentrer chez votre mari, dont vous venez d'apprendre qu'il vous trompe. Vous. Petit A, pensez d'abord à vous et demandez un moment de solitude pour vous reprendre. Petit B, tenez le coup encore un peu pour pouvoir aider la police. Petit C, décidez quelle interview donner en premier, autant que ce supplice ait servi à quelque chose, un contrat d'édition par exemple. Réponse B. L'épatante Amy place toujours les besoins des autres avant les siens. On me laisse le temps de faire un brin de toilette dans une chambre de l'hôpital. Et j'enfile une tenue que Nick m'a préparée à la maison. Un jean qui fait des plis pour être resté trop longtemps dans l'armoire. Un joli chemisier qui sent la poussière. Bunny et moi, nous faisons le trajet de l'hôpital au commissariat dans un silence presque complet. Je demande mollement des nouvelles de mes parents. « Ils vous attendent au commissariat, » répond Bunny. Ils ont pleuré quand je leur ai appris la nouvelle. De joie. Une joie et un soulagement absolu. On leur laissera le temps de vous serrer un bon coup dans leurs bras avant de passer aux questions. Ne vous en faites pas. Les caméras sont déjà au commissariat. Avec ses éclairages excessifs, joyeux, le parking ressemble à un stade de foot. Il n'y a pas de parking souterrain, et nous sommes obligés de nous arrêter juste devant, encerclés par la foule en délire. Je vois des lèvres humides et des postillons, tandis que tout le monde hurle des questions. Les flashs et les projecteurs clignotent dans tous les sens. La foule se bouscule en masse, se déplaçant de quelques centimètres sur la droite. Puis sur la gauche, tout le monde essaie d'arriver jusqu'à moi. « Je ne peux pas, » dis-je à Bonnie. La paume charnue d'un homme s'écrase contre la vitre de la voiture, tandis qu'un photographe tente de garder l'équilibre. Je prends sa main froide. « C'est trop. » Elle me tapote le bras et dit « Attendez. » Les portes du commissariat s'ouvrent et tous les flics du bâtiment se disposent en file le long des escaliers et forment un cordon de chaque côté, retenant les journalistes comme une garde d'honneur. Rhonda et moi, nous courons à l'intérieur, main dans la main, comme des jeunes mariés à rebours. Nous nous précipitons vers mes parents, qui attendent juste derrière la porte. Et tout le monde peut avoir les photos de nos embrassades. Ma mère chuchote « Ma petite chérie, ma petite chérie, ma petite chérie. » Et mon père sanglote si fort qu'il manque de s'étouffer. On me confine de nouveau. Comme si on ne m'avait pas assez confinée ces derniers temps. On m'installe dans une pièce grande comme un placard, avec des chaises de bureau confortables mais bon marché. Le genre de chaise où l'on croirait toujours qu'il reste des vieux bouts de nourriture dans le tissu. Une caméra qui clignote dans un coin. Pas de fenêtre. Ce n'est pas ce que je m'étais imaginé. Ce n'est pas fait pour que je me sente en sécurité. Je suis entourée par Bonnie, Gilpin son équipier, et deux agents du FBI de Saint-Louis qui restent presque silencieux. Ils me donnent de l'eau. Bonnie se lance. Bonnie. Ok, Amy. D'abord, nous tenons à vous remercier sincèrement d'accepter de parler avec nous après ce que vous avez subi. Dans une affaire comme celle-ci, il est très important d'établir les faits tant qu'ils sont encore frais dans la mémoire. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important. Alors c'est une bonne chose de parler maintenant. Si nous parvenons à recueillir tous les détails, nous pourrons clore l'enquête et vous pourrez retourner à votre vie, vous et Nick. Amy. C'est tout ce que je souhaite. Vous le méritez. Alors si vous êtes prête, est-ce qu'on peut commencer par la chronologie? À quelle heure Desi s'est-il présenté à votre porte? Vous vous en souvenez? Environ 10 heures. Un peu après, parce que je me rappelle avoir entendu les Teverer discuter en allant prendre leur voiture pour aller à la messe. Que s'est-il passé quand vous avez ouvert la porte? J'ai vu immédiatement que quelque chose n'allait pas. D'abord, Desi m'a écrit des lettres toute ma vie, mais son obsession avait semblé décroître au fil des années. Il semblait se considérer simplement comme un vieil ami, et étant donné que la police ne pouvait rien contre ça, j'avais décidé de laisser courir. Je n'avais jamais eu l'impression qu'il me voulait activement du mal, mais ça ne me plaisait pas du tout de savoir qu'il était tellement proche, géographiquement. Je crois que c'est ça qui l'a fait basculer, de savoir que j'étais si proche. Il est entré dans ma maison avec... Il était en sueur. Il paraissait un peu nerveux. Mais il avait également l'air extrêmement déterminé. J'étais en haut, je m'apprêtais à repasser ma robe, quand j'ai remarqué la poignée en bois de la marionnette de Judy par terre. Je suppose qu'elle était tombée. J'étais vexée parce que j'avais déjà caché les marionnettes dans la remise. Alors je l'ai ramassée et je l'avais à la main quand j'ai ouvert la porte. Excellente mémoire. Merci. Que s'est-il passé ensuite? Desi est entré de force et il s'est mis à faire les 100 pas dans le salon. Il était très agité, un peu surexcité. Il a dit « Qu'est-ce que vous faites pour votre anniversaire ?» Ça m'a effrayée, qu'il sache que c'était notre anniversaire. En plus, ça avait l'air de le mettre en colère. Il a projeté sa main, m'a attrapé le poignet et me l'a tordu derrière le dos. On a lutté. Je me suis débattue comme une forcenée. Et ensuite, je lui ai donné un coup de pied et j'ai réussi à me dégager un instant. J'ai couru à la cuisine. Nous nous sommes encore en poignée. Et il m'a donné un grand coup sur la tête avec la grosse poignée en bois de la marionnette. J'ai valsé. Il m'a encore cogné à 2 ou 3 reprises. Je me rappelle que pendant un instant, je n'y voyais plus rien. Ma tête me lançait terriblement. J'ai essayé d'attraper la poignée et il m'a donné un coup dans le bras avec son canif. J'ai encore la cicatrice. Vous voyez? Oui. Ça a été relevé à l'examen médical. Vous avez eu de la chance que la blessure soit superficielle. Croyez-moi, la douleur n'avait rien de superficiel. Alors c'est lui qui vous a donné un coup de couteau. L'anglais. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou si je me suis accidentellement jetée sur la lame. J'avais complètement perdu l'équilibre. Mais je me souviens que la poignée est tombée par terre et quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu qu'elle reposait dans une flaque de sang. Je crois que c'est là que je me suis évanouie. Où étiez-vous quand vous vous êtes réveillée? Je me suis réveillée ligotée dans mon salon. Vous avez crié essayait d'attirer l'attention des voisins. Bien sûr que j'ai crié. Non, mais vous avez entendu ce que je viens de vous dire? J'ai été battue, poignardée et ligotée par un homme qui était obsédé par moi depuis des décennies, qui avait essayé de se tuer dans ma chambre au pensionnat. Ok, ok, Amy. Je suis désolée. Cette question n'avait pas du tout pour but de vous donner l'impression que nous vous reprochions quoi que ce soit. C'est juste que nous avons besoin de bien comprendre tout ce qui s'est passé afin de pouvoir boucler l'enquête et vous laisser reprendre votre vie. Vous voulez encore de l'eau ou un café ou autre chose? Un truc chaud, ce serait bien. Je suis gelée. Pas de problème. Vous pouvez lui apporter un café? Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je pense qu'à l'origine, il avait l'intention de me maîtriser en douceur, de me kidnapper et de laisser croire à une fuite volontaire parce que quand je me suis réveillée, il avait juste fini d'éponger le sang dans la cuisine et il avait redressé la table de petits bibelots antiques qui étaient tombés quand j'avais couru dans la cuisine. Il s'était débarrassé de la poignée en bois. Mais il manquait de temps. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu le salon en désordre et il s'est dit « Je vais laisser ça comme ça, que ça donne l'impression qu'il s'est passé quelque chose de terrible. » Alors il a ouvert la porte d'entrée et il a fait tomber encore quelques trucs dans le salon, renverser l'ottomane. C'est pour ça que la scène de crime avait l'air tellement bizarre. Elle était à moitié réelle, à moitié fausse. Est-ce que Desi a caché des articles incriminants dans chacun des sites de la chasse au trésor? Le bureau de Nick, Hannibal, la maison de son père, la remise de Go. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il y avait une culotte de femme, pas de votre taille, dans le bureau de Nick. J'imagine qu'elle appartenait à la fille qu'il voyait. Pas à elle non plus. Là-dessus, je ne peux pas vous aider. Peut-être qu'il sortait avec plusieurs filles à la fois. On a retrouvé votre journal dans la maison de son père, partiellement brûlé dans la chaudière. Vous l'avez lu, ce journal? Il est abominable. Je suis sûre que c'est Nick qui a voulu s'en débarrasser. Je ne peux pas lui en vouloir, étant donné que vous l'avez immédiatement eu dans le collimateur. Je me demande pourquoi il serait allé chez son père pour le brûler. C'est à lui qu'il faut poser la question. Silence. Nick y allait souvent pour être seul. Il aime bien avoir du temps à lui. Alors je suis sûre que, pour lui, ça n'avait rien de bizarre. Et puis il ne pouvait pas faire ça chez nous, vu que c'était une scène de crime. Vous auriez très bien pu revenir et retrouver des traces dans les cendres. Chez son père, c'était plus discret. Je trouve que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, étant donné que vous l'aviez quasiment déjà expédié en prison. Le journal est très très inquiétant. Il allègue la maltraitance et votre crainte que Nick ne veuille pas du bébé, qu'il risque de vouloir vous tuer. J'aurais vraiment préféré qu'il ait brûlé complètement ce journal. Silence. Laissez-moi être honnête. Le journal parle de nos bagarres, Annick et moi, ces dernières années. Il ne peint pas le portrait le plus flatteur de notre mariage ou de Nick, mais je dois l'avouer, je n'écrivais jamais dans ce journal sauf si j'étais super heureuse ou si j'étais extrêmement, extrêmement malheureuse et que j'avais besoin de faire sortir la pression. Il m'arrive d'en rajouter un peu quand je ressasse les trucs qui m'énervent. Je veux dire, une grande partie de ce qu'il y a écrit est la triste réalité. Il m'a poussée une fois, il ne voulait pas de bébé, et il avait des problèmes d'argent. Mais de là à avoir peur de lui, je dois l'avouer, ça me fait mal de l'avouer. Mais c'est ma tendance à l'exagération. Je crois que le problème, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être harcelée. Ça a été un problème toute ma vie, par des gens qui développent une obsession à mon égard. Et ça me rend un peu parano. Vous avez essayé d'acheter un revolver. Ça me rend complètement parano. Ok ? Je suis désolée. Si vous aviez vécu ce que j'ai vécu, vous comprendriez. Vous parlez d'une soirée où, après avoir bu des verres, vous souffrez de ce qui ressemble à une intoxication à l'antigel caractérisée. Long silence. C'est bizarre, oui. J'ai été malade. Ok. Revenons à la chasse au trésor. Vous avez bien caché les marionnettes de Punch et Judy dans la remise? Oui. Notre enquête s'est en grande partie appuyée sur les dettes de Nick. une grande quantité d'achats à crédit et notre découverte des marchandises correspondantes dans la remise. Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez ouvert la remise et vu tous ces objets ? J'étais sur la propriété de Go. Et Go et moi, nous ne sommes pas spécialement proches, donc avant tout, j'ai eu l'impression de mettre le nez dans quelque chose qui ne me regardait pas. Je me rappelle avoir pensé à l'époque que ça devait être ses affaires de New York. Puis j'ai vu aux informations, Desi me forçait à tout regarder, que ça correspondait aux achats de Nick et je savais que Nick avait des problèmes d'argent, c'était un flambeur. Je pense qu'il devait avoir honte. Il ne pouvait pas revenir sur ses achats compulsifs, donc il me les avait cachés en attendant de pouvoir les revendre sur Internet. Les marionnettes de Punch et Judy. C'est un peu sinistre pour un cadeau. Je sais. Maintenant, je sais. Je ne me rappelais pas toute l'histoire de Punch et Judy. Tout ce que je voyais, c'était un mari, une femme et un bébé. Et c'était des objets en bois et j'étais enceinte. J'ai regardé vite fait sur Internet et j'ai trouvé la devise de Punch « That's the way to do it ». J'ai trouvé ça mignon. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Donc vous étiez ligoté. Comment est-ce que Desi vous a emmené à la voiture ? Il a rentré sa voiture dans le garage et il a baissé la porte. Il m'a traîné jusque-là, m'a jeté dans le coffre et s'en est allé. Et est-ce que vous avez crié à ce moment-là ? Oui, putain, j'ai hurlé. Et si j'avais su que chaque soir du mois qui allait suivre, Desi allait me violer, puis se pelotonner à côté de moi avec un martini et un somnifère pour ne pas être réveillé par mes sanglots, et que la police allait l'interroger sans comprendre ce qui se tramait, mais rester là sans rien faire. Oui, j'aurais peut-être crié plus fort. Oui, sans doute. Encore une fois, mes excuses. Est-ce qu'on peut apporter des mouchoirs à Madame Dune, s'il vous plaît ? Et où est son café ? Merci. Ok. Où êtes-vous allé après ça, Amy ? Nous avons roulé en direction de Saint-Louis, et je me rappelle qu'en route, il s'est arrêté à Hannibal. J'ai entendu le sifflet des bateaux à vapeur. C'est la seule autre chose qu'il ait faite pour laisser croire à une piste criminelle. C'est très intéressant. Il y a énormément de coïncidences dans cette affaire, à ce qu'il semble. Par exemple, le fait que Desi se débarrasse du sac à Hannibal, où votre indice avait envoyé Nick, et qu'à notre tour, nous croyons que c'est Nick qui l'avait déposé là. Ou le fait que vous ayez décidé de cacher un cadeau justement à l'endroit où Nick cachait les marchandises qu'il avait achetées avec des cartes de crédit secrètes. Vraiment ? Je dois vous dire, je ne vois pas spécialement de coïncidence là-dedans. Ce que je vois, c'est une bande de flics qui se sont mis dans la tête que mon mari était coupable. Et maintenant que je suis en vie et qu'il est donc évident qu'il n'est pas coupable, ils font des pieds et des mains pour couvrir leurs conneries. Au lieu d'assumer le fait que si l'affaire était restée entre vos mains extrêmement incompétentes, Nick serait dans le couloir de la mort et je serais ligotée à un lit, violée tous les jours jusqu'à ma mort. Je suis désolée, c'est... Je me suis sauvée moi-même, ce qui a sauvé Nick, ce qui vous a sauvé la mise à vous aussi, pauvres incapables. C'est un excellent argument, Amy. Je suis désolée. Nous avons passé tellement de temps sur cette affaire. Nous voulons repérer tous les détails qui vous avaient échappé afin de ne pas reproduire nos erreurs. Mais vous avez parfaitement raison. Nous passons à côté de l'essentiel. Vous êtes une héroïne. Vous êtes une héroïne. Rien de moins. Merci. Je suis contente de vous l'entendre dire.